Il fut le navigateur poussé par Microsoft, empereur incontesté jusque devant la Commission européenne, avant d'en être déchu par les webmestres, puni par les politiques et regardé avec dédain par le grand public. Internet Explorer n'est plus, et pourtant on lui doit beaucoup. Dans cette release de CPU qui rend hommage à Internet Explorer et qui en même temps parle de son successeur Edge, nous recevons par satellite un témoin direct de cette époque. David Catu, Group Engineering Manager chez Microsoft, développeur de la bibliothèque open source 3D Babylon.js, évangéliste des standards illuminant Paris Web, podcasteur à Vélassin et illustrateur fantasy. CPU, carré et petit utile. David, quelle a été ta première expérience avec le web ?
Ma première expérience avec le web, bon, ça c'est une excellente question. J'étais étudiant à la fac.
J'ai que des très bonnes questions.
Et c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai découvert le web quand j'étais donc à l'université Paul Sabatier. Et non, je dis n'importe quoi, à l'UPPA, Université Pau et des Pays de la Dour, donc du côté de Pau. Donc en Doug de maths. Et j'ai découvert Lynx, donc un navigateur texte. Et ça a été, j'ai adoré ça. Nous, on n'avait pas les BBS, tu sais, en France. J'ai beaucoup d'amis et de collègues américains qui me parlent des BBS ou même des Anglais, tu vois. Nous, on avait cette merdasse de Minitel, là, qui a vraiment phagocyté Internet en France pendant super longtemps. Ça nous a mis dans le jus super longtemps. Et quand j'ai découvert Lynx sur Renater à l'université, ça a été incroyable. Après, plus tard, j'ai eu une expérience avec Netscape. Et le premier site que j'ai ouvert visuel, c'était le site de la NASA. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Et oui, avec des images absolument formidables.
Ouais, il y avait une fusée, voilà. Et je trouvais ça génial.
David, comment tu t'es retrouvé chez Microsoft ?
Ah, ça, c'est une vraie question. J'ai fondé en 1999 avec deux amis une société qui s'appelle BeWise sur Toulouse, qui faisait en fait du consulting sur les technologies Microsoft. On était des guns to hire, comme disent les Américains, vraiment des mercenaires. Si t'avais un projet et que t'avais des problématiques avec .NET à l'époque, C#, etc., ben nous, on avait des gars qui étaient formés là-dessus et on venait aider. En 2002, on a fondé une seconde société qui s'appelle Vertis, qui éditait un moteur 3D déjà, qui était écrit en C# avec DirectX 9, puis 10, puis 11. Et ce qui fait que j'ai eu d'excellentes relations pendant très longtemps avec Microsoft, de 99 à 2011. On était leurs partenaires locaux sur Toulouse, puisque nous, on était vraiment, le terme associé, c'est pure player, quoi. Vraiment, on ne faisait que du Microsoft, tu vois, vraiment du sol au plafond. Et aucun rapport avec le web, by the way. C'était vraiment du développement C# sur client lourd, sur Windows. Un petit peu d'ASP.NET pour le back-end, voilà. Mais c'était très, très peu web. Et en 2011, ma femme et moi, on s'est dit, putain, il faut qu'on change. On a envie de bouger, tu vois. On était tous les deux sans enfants, donc on s'est dit, allez, allons découvrir le monde. Presque, tu vois, le cliché de tu fais tourner le globe, allez, on va là. Bon, non, en fait, nous, on voulait déjà aller aux États-Unis pour découvrir un petit peu comment c'était. Bercé avec les séries télé des années 80, tu sais. Et du coup, il y a à ce moment-là, un de mes amis chez Microsoft, Mitsu Furuta, qui était évangéliste C#, justement, qui me ping, qui me dit, je quitte Microsoft, je vais fonder ma compagnie. Et du coup, il y a un job à prendre. Ben voilà, ben, c'est que ça s'est passé comme ça. En 2011, j'ai écrit à Eric Mitlet, qui était le patron des évangélistes chez Microsoft France. Je lui ai dit, écoute, je suis intéressé. Mais il faut que tu saches une chose, je suis intéressé parce que c'est un step intermédiaire pour moi. Moi, j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis pour voir autre chose. Et il m'a dit, pas de problème. Pendant 3 ans, je suis resté en France chez Microsoft à faire le zinzin avec justement IE. C'est là où on s'est rencontrés.
Oui, on se connaît, hein.
À aller faire les conférences web, à parler justement de Internet Explorer à des gens qui n'avaient rien à branler d'Internet Explorer, faut être honnête. Et puis après ça, je suis allé faire l'évangéliste Edge aux États-Unis avant de me retrouver plein d'autres choses, plein d'aventures aux États-Unis. Mais c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec MS.
Oui, je suis surpris d'ailleurs que vous n'ayez jamais sorti de produits dérivés poupée vaudou IE. Ça aurait eu un succès fou à Paris
ah,
Web.
Ouais, ouais, je pense
parce que effectivement, quand on se connaît, et ça c'est une anecdote personnelle, c'était à Paris Web en 2013, vous êtes monté sur scène devant 3000 personnes qui étaient, mais alors remontées à fond, c'est pendant la partie Lightning Talk avec David Rousset, et on en a déjà parlé, et tout le monde vous a hué, et quand 9 minutes après vous êtes redescendu parce que vous avez codé en même temps que vous avez fait votre conférence, tout le monde a applaudi, et c'est le retournement le plus hallucinant que j'ai jamais vu.
Eh ouais. Ils savaient pas que chez Microsoft, il y avait aussi des développeurs web. Et c'était vraiment notre job, quoi. C'était de leur dire, attendez, les gars, on est comme vous, en fait. On a subi IE comme vous, quoi.
Alors, moi, j'étais au courant parce que vers 2003, j'étais tombé sur un article d'un développeur de l'architecture serveur ASP.NET, donc de chez Microsoft, mais anonyme. Et je crois que j'ai jamais autant appris de gros mots en anglais quand il parlait d'Internet Explorer. Alors, est-ce que maintenant, les deux équipes peuvent se croiser dans le couloir sans que ça tourne à une scène de guerre?
Aujourd'hui, si tu veux, entre Edge, puisqu'il n'y a plus d'équipe IE, et ASP.NET, ça se passe super bien, puisque voilà, c'est des standards communs. Ça... À l'époque, je pense que ça devait être bien tendu, mais tu sais que les développeurs, même, en fait, si tu veux, les développeurs externes à Microsoft n'étaient pas super fans de IE. Mais même à l'intérieur, c'était compliqué, tu sais, cet héritage. L'équipe qui a fait IE 6 et IE 7 a plus ou moins disparu, a quitté Microsoft et passé à autre chose. Et ce qui fait ceux qui en ont hérité derrière, bah, ils héritaient d'un code base qui leur allait pas, quoi.
C'est vrai qu'ils ont fait appel au service des US Marshall pour changer d'identité?
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être. Si tu veux, c'était compliqué. Après, c'est dur, hein. C'est toujours pareil à l'informatique, hein. C'est pas que IE. Quand tu regardes du code legacy, bah, t'as l'impression que c'est de l'Adobe. Il faut se repositionner dans l'époque, quoi. Quand IE est arrivé à comme tu dis, l'empereur a pris le trône, beaucoup de monde était super content, quoi. Hein. C'est qu'après que les choses se sont gâtées.
C'est quand IE 6 est resté stagné un temps absolument hallucinant.
Exactement.
J'aimerais parler d'un fait absolument méconnu. Il y eut un Internet Explorer qui a été loué pour son respect des standards du web à l'époque. Internet Explorer 5.1 sur Mac, avec dans son équipe Tantek, Shelik, et je sais que ça va le faire chier, mais celui qu'on appelle Mr. T dans les réseaux sociaux, puisqu'il a le nickname T sur pratiquement tous les grands réseaux sociaux, grand spécialiste des standards du web. Je crois qu'actuellement, il est chez Mozilla et il a toujours des postes chez... Il avait déjà des postes à l'époque au W3C. Pourquoi ils y sont arrivés? C'était pas la même équipe du tout. Ils étaient même séparés géographiquement. Ils n'avaient pas une pression dessus d'eux.
C'était pas la même pression, tout simplement. Mmh. Tu parles vraiment des débuts du net là. Tu parles vraiment de IE 5. On n'y est pas encore, quoi. Au net, à Internet aussi présent qu'on a aujourd'hui. C'était pas la même équipe. C'est marrant parce que IE, si tu veux, c'est une mauvaise image qu'ils ont eue, mais ils voulaient pas imposer des choses. Ils trouvaient juste pas d'interlocuteur. Et au bout d'un moment, ils étaient tout seuls. Mais pense à Chrome à un moment, même aujourd'hui, si tu veux. Allez, on va être un petit peu langue de pute, mais pas longtemps. Ce que fait Chromium, si tu veux, vis-à-vis des standards, bah, ok, il les open source derrière, mais il les implémente d'abord, et après, si tu veux, chacun est libre de suivre ou pas. Il n'y a pas vraiment une discussion comme on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les standards du web, c'est ce qu'implémente Chrome, quoi. Ils font... À vous de suivre derrière, combien de specs je lis où c'est proposé, implémenté, pas discuté, bisous, au revoir, quoi, tu vois. Moi, aujourd'hui, je bosse beaucoup avec WebGPU. WebGPU, aujourd'hui, c'est un standard qui aurait mérité à être plus débattu, voilà. Parce que quand t'es tout seul, bah, pourquoi t'embêter à débattre? Donc, IE, au début, 5.1, et même avant, 4, c'était naissant, ils discutaient avec tout le monde, c'était un peu le kumbaya, tu vois, c'était le beau monde. Puis après, à un moment donné, on a eu combien, 98% de parts de marché, à un moment donné. Ouais, je pense que ça te monte à la tête et que t'as plus envie de discuter. Pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à discuter alors que tu l'imposes, tu vois? Je crois que c'est vraiment lui-même.
On peut être vache, mais dans Internet Explorer 5 sous Windows, on a des avancées technologiques qui allaient faire date. On a du JavaScript dans CSS avec les expressions. Ouais. Pour faire ce qui allait être plus tard les size targets dans le design liquide et qu'on utilise beaucoup sur notre site web. Du Dynamic HTML qui allait ouvrir le champ au web app. On avait un format d'image vectorielle, le VML, les ActiveX qui permettaient de lancer des éléments exécutables et même les favicon. Il y a des technologies d'avant-garde que j'oublie encore.
C'est dur de... Là, comme ça, je ne sais pas.
Ouais.
Mais encore une fois, c'était super intéressant. Mais c'est Chrome aujourd'hui. Je suis désolé de tourner autour du pot. C'est Chrome aujourd'hui. Toutes les belles avancées qu'on a aujourd'hui. Je vais te parler d'une petite histoire personnelle. Je suis sur une croisade personnelle. Je n'ai pas d'autre mot. Tel un chevalier blanc de JavaScript, je suis en train d'essayer d'obtenir le multithreading en JavaScript. Je suis en train, et je parle pas des web workers, on est bien d'accord.
Ouais.
Je voudrais aujourd'hui avoir des threads dans JavaScript. Je voudrais pouvoir avoir des fonctions qui s'exécutent sur un second thread tout en ayant accès au DOM, etc. Pas des web workers, pas une isolation. Pour moi, les web workers, c'est des processus, si tu préfères.
Ouais, mais on peut y arriver avec les événements, si je me trompe, il y a des astuces pour y arriver.
Les événements sont sur le même thread. Les événements sont sur le même thread. C'était le problème. Et aujourd'hui, pour faire ça, si tu veux, pour cette croisade-là, aujourd'hui, il faut aller convaincre tous les grands noms de faire tout ça. Et aujourd'hui, mais c'est super compliqué de faire ça. Je ne sais pas faire aujourd'hui. C'est impossible. Je suis allé au TC39 pour essayer de les convaincre. Ça n'a pas fonctionné. Je suis allé au W3C. J'ai plaidé ma cause devant le W3C Gaming. Ça fait splash. Je suis pas tout seul à le demander. Alors, il y a deux gros moteurs 3D sur le web aujourd'hui. C'est le Babylon.js, le mien, et celui de Mr. Doob, 3.js. On est tous les deux à demander la même chose. Mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas.
Et c'est dire si des fois, ben, il vaut mieux des fois créer son truc proprio pour essayer de faire avancer.
Exactement mon point. Exactement le point, ouais. Si tu veux que ça bouge, il faut le faire.
Voilà. Et donc, ça nous fait une transition nickel chrome. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec David Catu, responsable du groupe de développement chez Microsoft. Pardon, je crois qu'il y a deux groupes de développement.
Ouais, il y a deux groupes, effectivement. Il y a le groupe Babylon.js et le groupe Stream, Microsoft Stream, qui est le YouTube pour entreprise. Donc, c'est de la vidéo sur, si t'as de la vidéo dans OneDrive ou SharePoint ou Teams ou whatsoever, c'est chez moi.
Et j'en parlerai la prochaine fois que je voudrais héberger des vidéos qui ont été strikées sur YouTube. IE6 a régné de 2002 à 2007 et les entreprises refusaient de passer même à IE7. On a même des exemples extrêmes comme la Corée du Sud, dont on a parlé tout à l'heure, où toute opération bureaucratique ou financière passait forcément par un ActiveX. Rétrospectivement, qu'avez-vous appris ? Release early, release often, and listen to your customers. Ce qui serait assez rigolo parce que c'est une phrase de The Cathedral and the Bazaar, l'essai du logiciel libre d'Eric S. Raymond.
Qu'est-ce qu'on a appris ? Je ne sais pas si on a appris grand-chose, pour être honnête avec toi. C'était un autre monde. 98% de parts de marché. On le paye aujourd'hui, honnêtement.
À l'époque, tu étais évangéliste logiciel, ce qui veut dire que tu étais payé par Microsoft pour aller dans les entreprises, pour aller dans les universités, pour aller dans les écoles, pour aller dans les conférences techniques. Tu t'en prenais plein la gueule ou tu avais du mal à les faire avancer ?
Ah non, j'en prenais plein la gueule, c'était n'importe quoi. En tant qu'évangéliste, je pense qu'un des métiers les plus durs que j'ai eu à faire en 30 ans de carrière, c'est évangéliste Internet Explorer. Notre métier, on était payé, non pas pour que les gens utilisent Internet Explorer, pour que les gens testent sur Internet Explorer. Notre message, notre leitmotiv avec David Rousset, c'était, s'il vous plaît, développez sous Google, sous Firefox, sous ce que vous voulez, Safari, pas de problème. Mais incluez IE, parce que IE est encore très présent, et du coup, tous les gens qui sont sous IE sont maltraité, entre guillemets, dans ce sens que, voilà, oui, effectivement, tous les trucs fancy, maintenant, ils sont sur Chromium ou sur WebKit, c'est cool. Mais bon, pensez quand même qu'il y a une grande majorité de gens, tu disais, encore 12% des Coréens du Sud qui sont toujours sur IE, qui, eux, vont souffrir s'ils vont voir votre site, tout simplement. Et du coup, on a des gros problèmes avec ça. C'était ça, notre métier. Vendre le fait tester aussi sur IE.
Et comment a fait Microsoft à l'époque pour pousser au changement et faire quitter IE6 ? D'abord, est-ce que Microsoft l'a fait ?
Il y a eu une époque où IE6 était tellement en avance qu'on a arrêté. Il n'y a plus d'investissement dessus. C'est là où Chrome est apparu. Il n'y avait pas d'investissement. On a essayé de reprendre les investissements quelques temps plus tard avec IE7. C'était déjà trop tard. Alors, je dis c'était trop tard, mais je suis très content de ce qui s'est passé. Le problème j'ai beaucoup aimé cette période, si tu veux, où il y avait Firefox à 20-25%, il y avait Chromium à une trentaine de pourcents et nous à une trentaine de pourcents. C'était un peu la guéguerre, mais c'était beau parce que il fallait vraiment qu'il y ait un standard. Tu vois, ça passait pas sinon, tu vois. Et on pouvait pas partir en tête. C'était trop tard. Et il y avait vraiment ce groupe. Aujourd'hui, on a un peu inversé la tendance. Alors maintenant, la main est chez Google, mais aujourd'hui, Firefox, je suis triste pour les gens de chez Mozilla, mais ils ont perdu la bataille. Safari reste, mais parce que c'est le browser par défaut sur iOS et macOS.
Et impossible à remplacer sous iOS d'ailleurs.
Techniquement pas possible à remplacer sur iOS. Voilà. Donc, eux, ils survivent grâce à ça. Mais au final, le web appartient à Chromium. Alors, il y a des avantages à ça. C'est qu'on a plein d'innovations. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. C'est un peu comme à l'époque de IE6 et IE5 avant. Il y a plein d'innovations qui sortent de partout. Moi, je vois fleurir vraiment des choses qui, avec un groupe et des consortiums à gérer, ça aurait été pas possible. Mais d'un autre côté, ils ont la main, quoi. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, encore l'autre jour, ils nous ont fait péter des breaking changes dans les shaders sur WebGL. Ça aurait été inacceptable à une époque où ils n'étaient pas les maîtres du monde. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, ils te sortent une version qui casse la compatibilité de ces shaders. T'as tous les gens qui utilisent WebGL qui crèvent la gueule ouverte. Qu'est-ce qui se passe avec Chrome 97? Ah oui, ils ont rajouté cette option, c'est pas grave, hein? Ben non, mais enfin, c'est-à-dire c'est un peu pénible puisqu'il n'y a plus rien qui marche quand même, monsieur. Voilà. Mais ça, tu pourrais pas l'avoir. Si t'avais pas un empereur. Le nouvel empereur est là.
Mais justement, je voudrais rester sur IE6, sur cette
histoire. Excuse-moi, oui, je divague souvent.
C'est vrai. Non, mais c'est normal, on a beaucoup de choses à se dire et c'est pour ça qu'on va faire deux émissions.
Mais disons que ça correspond vraiment parfaitement. On peut faire un parallèle, c'est pour ça que j'y reviens en fait. C'est la même histoire.
Sauf qu'il n'y a pas la période de stagnation. Mais du coup, comment a fait Microsoft ? Est-ce qu'il y a eu des entreprises où des entreprises ont demandé des dédommagements parce que IE7 était plus compatible, ce genre de choses ? Il y a eu des...
Non, enfin, pas que je sache. Pas que je sache, mais bon, tout simplement, on s'est aperçu que le web était le nouveau
Eldorado, quoi. Si tu veux, jusqu'à iOS 6. En interne, je pense qu'il y avait une croyance comme quoi, et jusqu'à, ça a duré très longtemps, et même au-delà de iOS 6, 7, 8 et 9, que Windows restait la plateforme qui allait conquérir le monde. Et tu t'aperçois aujourd'hui que Windows est un OS, à côté de macOS, mais surtout l'endroit de place to be, c'est le web. C'est le web aujourd'hui. Et du coup, Microsoft, de l'époque, s'est doucement aperçu de ça. Donc, on a réinvesti, on a recréé une équipe de browsers, iOS 7, iOS 8, iOS 9, iOS 10, iOS 11, avec des équipes qui grandissaient, mais qui s'apercevaient que, voilà, le retard accumulé aurait nécessité un tel investissement que c'était impossible de rattraper la machine.
Comment ça a été vécu quand le ballot screen, le choix imposé à tous les utilisateurs de Windows de choisir un navigateur web, IE et d'autres, a été imposé à Microsoft par la communauté européenne? Est-ce que ça a fait réfléchir en interne? Est-ce qu'il y avait des stats qui circulaient?
Oui. Surtout ça, oui. C'était peut-être, il y avait une histoire en temps, tu sais, de couper Microsoft en deux parce que c'était trop gros, qui avait fait réfléchir beaucoup en interne, mais qui, au final, avait été évité. Là, tu t'apercevais que pour une fois, le législateur tapait du poing sur la table et pouvait te forcer à faire des choix logiciels. C'était assez nouveau, si tu regardes. Le fait que le législateur mette son nez.
C'était l'Europe, en
fait. Et c'était qu'en Europe. Mais ouais, mais bon, là, tu vois, l'Europe a fait aussi le GDPR, comment ça s'appelle en français?
Le RGPD.
RGPD, tout à fait. Ben, ça, il y en a eu une version qui est sortie en Californie aussi. Là, si tu veux, aujourd'hui, c'est un train-train aujourd'hui qui nous contraint de très bonne manière à rester des gentils citizens, des gentils citoyens. Mais à l'époque, le ballot screen, c'est vraiment une claque dans ta gueule, quoi. T'es pas au-dessus des lois, Coco. Et c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Utiliser une position dominante pour forcer les choses, je suis désolé, moi, ça ne va pas dans le sens de ma philosophie. C'est pas bien. Et ça, moi, je suis un garçon de l'open source. Hein.
Alors, toi, tu es dev, mais je suppose que derrière, il y avait les commerciaux et tout ça. Les chiffres de choix circulaient, je suppose. C'était vécu comment?
Ben mal, forcément.
Non, mais
mal.
C'était devenu un KPI, objectif chiffré, qu'il fallait que les gens cliquent plus souvent sur Internet Explorer.
C'est l'objectif chiffré, pas tant qu'il clique, c'était l'objectif chiffré, qui est toujours un objectif chiffré, qui existe toujours aujourd'hui. Quel est le browser par défaut sur Windows? C'est toujours un objectif aujourd'hui.
Alors, on va rester bons amis, mais vu les récents événements dans Windows 11, où quand tu vas avec Edge sur le site de Chrome, il dit, vous êtes sûr que vous voulez pas rester sur Edge?
Et est-ce que c'est pas de bonne guerre? On est chez nous, quoi. Est-ce qu'il y en a des gens qui râlent parce que je peux pas mettre un autre browser sur iOS?
Ouais. Au moins, il y a la possibilité encore d'installer un browser, mais.
Eh oui, mais ça changera jamais, évidemment. Mais c'est logique que l'équipe qui est derrière ça, elle dise, attendez, on possède les deux, est-ce qu'on peut pas quand même mettre un petit nudge, quoi? Je veux dire, quand je vais sur Gmail et qu'on me dise, ah, c'est quand même mieux avec Chrome, non? Tu vois, c'est pareil.
Je voudrais revenir sur l'organisation interne au sein de Microsoft, le poste que tu as eu d'évangéliste logiciel, qui en fait n'était pas lié au développement, mais au commercial. Donc, je suppose que il y avait quand même là-dessus, à cette époque-là, où ça a été après iOS 7, iOS 8 et la baisse continue de part de marché, il y avait peut-être aussi des certaines pressions qu'on vous faisait pour éviter de ne pas parler des autres navigateurs et tout le reste.
Il y a une époque, il y a une époque, ce qu'on appelle nous en interne l'ancien Microsoft, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, franchement. Et je dis pas ça parce que je travaille toujours chez Microsoft, hein. Mais il y a eu une époque, je me souviens de Steve Ballmer appelant Linux le cancer. Non, mais c'est vrai, un cancer.
Oui, je m'en souviens.
C'était un état d'esprit. Quand t'as le CEO de l'entreprise qui dit ça, c'est pas juste lui, tu sais. C'est un état d'esprit qui est dans la boîte. C'est dur de tomber de son trône. Tu sais, quand t'es le numéro un du browser, de l'OS, etc., et qu'on te prend ta place, il y a un état d'esprit qui dit non, interdit d'utiliser des MacBooks, interdit d'installer d'autres browsers, ça a eu lieu. C'est dommage parce que c'est de fermer la porte à la multiplicité du monde, mais oui, effectivement, ça a existé.
Et depuis, la musique a changé. CCPU avec David Catu, responsable de groupe de développement chez Microsoft, et on parle de la chute d'Internet Explorer. Donc, on en a parlé tout à l'heure, justement, avant la coupure, c'est que tu étais évangéliste logiciel. Et en 2013, à l'époque, tu me disais que chez Microsoft, toi et David Rousset, comme vous programmiez des applis de votre côté en Python et que vous parliez de respecter les standards W3C, vous aviez des regards noirs...
Non, pas en Python. En JavaScript, pas en Python.
En JavaScript, pardon. Vous aviez des regards noirs de collègues à Microsoft France.
C'est vrai.
Alors, vous étiez couvert. Vous avez eu droit à des crocs en jambes connectés, voire des tentatives de sabotage ou des tentatives de meurtre.
Il faut que tu vois que Microsoft est une grande entreprise. Juste en France, c'est une entreprise qui va vendre, qui vendait à l'époque, enfin qui vend toujours d'ailleurs, des licences de Windows, d'accord ?
Ouais.
Toi, t'arrives et tu dis non, mais le web c'est bien. Tous les browsers devraient fonctionner ensemble. Vive l'amour, tu vois. Et ben forcément, tu as une sorte de clash entre le gars qui, à la fin du mois, il est payé parce qu'il fait sa com, parce qu'il doit vendre X licences de Windows ou d'Office qui sont sur, à l'époque, qui ne marchaient que sur Windows, versus toi qui dit, non, attendez, les développeurs web, c'est le monde du futur, tous les navigateurs sont les mêmes, juste, s'il vous plaît, testez sous IE, mais développer en JavaScript, c'est bien. Développer en JavaScript, ça veut dire que tu développes pas sur un langage qui est loqué à la plateforme. D'accord. Ben oui, forcément. On n'a pas eu des crocs en jeu, mais on avait des discussions intéressantes, oui. Mais on était protégés et c'était couvert et ça venait de très haut puisque ça venait de toutes les équipes évangélistes dans le monde, dont l'objectif, puisqu'on était en train de préparer cette transition à l'époque de C# Silverlight vers HTML5, était de dire, OK, on a compris l'histoire, il faut qu'on y aille. C'est un changement, une entreprise de 100 000 personnes, ça change pas tout de suite, donc vous êtes un peu, comme ils disent les Américains, de tip of the spear, la pointe de la lance, si tu veux, et du coup, oui, ça va râler un petit peu dans les chaumières. Ouais, on vendait pas du Visual Studio, c'est sûr, on vendait pas du Windows, non. Mais aujourd'hui, le Windows et le Microsoft que l'on connaît, il est là aussi grâce à notre capacité à avoir accepté et embrassé le web.
C'est assez intéressant parce que quand même tu parlais de Silverlight où déjà quand Silverlight était arrivé on était déjà sur la fin, on parlait d'arrêter d'utiliser les plugins et tout ça, que beaucoup de choses, ouais. Et le seul usage qu'il y avait de Silverlight de mémoire c'était la lecture des vidéos avec DRM.
C'est vrai.
Bah, c'est le seul usage qui en est resté, mais il y avait des choses qui avaient été tentées de lancer derrière pour essayer de reconstruire ce qui a été obligé d'être trashé avec ActiveX. Mais vous sentiez déjà, est-ce que toi, en tant que dev, tu sentais qu'il y avait des mouvements dans l'entreprise qui, non, ça pue, c'est le mauvais objectif. Est-ce que tu peux le dire
déjà ? Non, honnêtement, ce que je peux t'en dire, c'est que moi, le jour où j'ai vu que Windows 8 est arrivé avec WinJS, c'est-à-dire que le jour où on a sorti un nouveau Windows sur lequel la plateforme de développement était et ou C++, et ou C#, et ou JavaScript, là, je me suis dit, c'est bon, on y est. Ça y est. On a tourné la page. Windows 8, pour moi, a été ce moment-là, ce wow moment. C'était incroyable. On pouvait considérer JavaScript comme un client, un citoyen de premier ordre. Donc là, oui, on a senti. Jusqu'avant, être évangéliste IE, encore une fois, ça semble, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ton futur, tu te dis, ouais, ok. Est-ce que IE 12, s'il avait existé, est-ce qu'il va vraiment apporter ce dont on a besoin, à savoir un respect des standards, etc. Je savais pas te dire. Et même si on faisait d'énormes efforts, les développeurs testaient pas, si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc, c'est quand Windows 8 est apparu que moi j'ai vraiment vu le bout du tunnel.
BabylonJS, donc c'est un outil de rendu 3D, tu construis depuis super longtemps, puisque tu l'avais présenté justement en 2012-2013 à Paris Web.
Oui, j'ai même commencé avant Microsoft.
À l'origine, il a été créé et porté sous le Silverlight, puis ensuite porté en JavaScript standard, uniquement des API, des standards du web W3C. Construire un outil aussi complexe et poussé, est-ce que cela amène à mieux discuter, à être mieux écouté chez les équipes de dev d'Internet Explorer ?
Oui.
C'était pas uniquement le pet project qu'on te laisse faire sur un cinquième de ton temps.
C'était même pas un pet project, puisque je faisais ça sur mon temps personnel. C'était pas un projet pro. Ça l'est devenu plus tard, mais là, aujourd'hui, j'ai une équipe de personnes qui travaillent dessus, donc c'est vraiment aujourd'hui un vrai projet. Mais ça nous donne des utilisateurs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai Adobe, j'ai Ferrari, j'ai Ikea, qui sont des utilisateurs de BabylonJS. Donc forcément, quand je vais voir les équipes de Edge, je leur dis, bon, les cocos, là, c'est quoi cette nouveauté? Ça va pas du tout. Ou au contraire, on a besoin de ça, ben on est écouté. À l'époque, de ce que je peux t'en dire, on n'était pas trop écouté. C'était l'époque de IE9 et IE10. Ça commençait à s'ouvrir. On commençait à avoir des PM qui siégeaient au niveau des groupes de consortium, etc., du Chronos, du W3C. Ça commençait. Mais c'était aussi une époque où Microsoft était en transition, où on bougeait du Microsoft tout puissant au Microsoft qui réalise, ben non, on n'est pas tout seul, effectivement, il y a du monde autour. Le Microsoft de l'époque, on n'avait pas le droit de lire du code open source. Pour te donner, les gens qui travaillaient sur Windows n'avaient pas le droit d'ouvrir du code open source.
Pourtant, il y a quand même du code BSD dans Windows, dans de multiples endroits.
Oui, mais il y avait certaines exceptions, bien sûr, mais on pouvait pas aller...
Ah, c'était une dérogation, il fallait une dérogation signée du patron, comme quoi j'ai le droit de regarder du code BSD.
Il y avait certains endroits où tu pouvais pas, genre tu allais sur, nous on avait CodePlex à l'époque, hein, qui avait été avant GitHub, mais tu vois, il y avait une crainte qu'on retrouve dans Windows du code qui involontairement ou involontairement aurait été issu de l'open source et qui aurait dû nous forcer du coup à ouvrir le code source de Windows à cause de tout le mécanisme de licence. Donc c'était vraiment une autre époque.
Oui, le mécanisme de licence contaminante de la GPL.
Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'était un autre Microsoft, c'était avant Satya, c'était un autre état d'esprit. Je sais pas que je le juge ou pas, c'est une autre époque, c'est toujours pareil. Mais effectivement, on n'était pas trop écoutés, pour répondre à ta question.
Quand Microsoft a commencé à s'engager, quel est le moment de bascule qui l'a envoyé vers un meilleur respect des standards plutôt que de tenter de faire de leur pratique une norme?
Tu sais quoi? C'est quand tu prends une terre dans ta gueule. C'est comme la vie. En fait, tu t'aperçois que t'es plus le numéro 1, que t'es plus en haut. Quand tu vois les parts de marché de IE 9, 10 et 11 qui s'effondrent, et que tout ce que tu tentes ne suffit pas, bah tu te mets du côté des challengers, quoi. Tu dis ah, ok, finalement non, on peut pas imposer les choses, ça marche plus comme ça, pas pour nous en tout cas. Et du coup, la meilleure solution pour obtenir ce que l'on souhaite au final, par exemple, j'ai un excellent exemple, les pointer events.
Oui.
Je sais pas si beaucoup de monde sait que les pointer events, donc le fait d'avoir plutôt que d'avoir le touchdown, un touch move et tout ça qui viennent de WebKit et qui...
Au lieu d'avoir les événements souris, puis les événements tactiles, exactement, les événements à la souris, au stylet ou même un événement de profondeur, etc., on a un seul gestionnaire d'événements qui peut gérer du multipoint, qui peut gérer de la profondeur et tout ça.
Eh bien, ça vient de chez nous.
Ça vient de chez Microsoft, oui.
Et pourquoi? Parce que nous, on était en train de sortir nos Surface Laptop, on était en train de sortir nos Surface, et il nous fallait donc, sur le web, puisqu'on reconnaissait que le web était un client hyper important, une manière de gérer le touch de façon simple. Du coup, ça servait nos objectifs, ça servait tout le monde. Et c'est ça qui marche bien. C'est quand t'as une boîte qui pousse un standard et que tout le monde le reconnaît, ah ouais, c'est pas mal. Ça, je vois pourquoi ça vous sert Microsoft, mais au final, c'est bien d'unifier le mécanisme. Ça, c'était vraiment là où on s'est dit, ok, oui, ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a un moment charnière? Ben, on va respecter les standards du web et on va vraiment s'y mettre au lieu de pousser d'abord à créer notre techno. Est-ce qu'il y a une conférence en interne, un mémo, un truc comme ça? Il y a un point charnière où finalement ça a été diffus?
Ouais, ça a été diffus. Ça a été lié aux gens, je crois. Tu sais, que des gens qui partent, des gens qui viennent, du nouveau sang, du sang neuf qui arrive, des gens qui sont peut-être plus, j'allais dire moderne, mais c'est pas le bon mot, mais tu sais, plus exposé, en fait, à comment le web fonctionne, etc. Je pense pas qu'il y ait un moment de T ou un ordre direct, tu vois, un executive order qui dit, à partir de maintenant, on est ouvert, tu vois. Je pense pas que ça soit arrivé.
Et c'était dû à un problème de culture, de couplage avec l'OS ou de décision hiérarchique, parce que ça suffisait plus de monter sur scène en chemise bleue, en gueulant, developers, 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 developers!
Il le pensait et il le pense toujours. Il aime les développeurs, Steve Ballmer. Honnêtement, c'était vraiment. Il reconnaissait que Microsoft était une boîte faite par les développeurs. Mais tu peux être un bon développeur ou un mauvais développeur. C'est comme le chasseur, tu vois, t'as le bon et le mauvais.
Et c'est un Landais qui dit ça.
Ben là, c'est pareil en fait. Là, c'est pareil. Il y a une mentalité. Je sais pas. Encore une fois, j'ai l'impression qu'autour de Windows 8, où on s'est mis Win.js sous le nez en disant bon, C# n'est plus le dieu roi. Windows commence à sentir que il faudrait peut-être s'ouvrir un peu pour continuer à exister. Je sais pas. Je saurais pas te mettre une date ou une conférence, mais ça a encore été au fur et à mesure comme ça. Effectivement lié au fait que les gens partaient.
Et c'est ainsi que les pelletés finales furent lancées vers la tombe d'Internet Explorer. David, merci d'être resté à l'enregistrement pour la suite, pour cette deuxième émission.
Une semaine, c'était long, mec.
où on a fini de pleurer Internet Explorer ou presque, et on va parler plus de Edge. Puisqu'il y a eu un changement de hiérarchie, il y a eu d'abord le départ de Bill Gates, dans une vidéo qui d'ailleurs est très drôle, et là où j'ai beaucoup de respect pour Steve Ballmer et Bill Gates, c'est pour les vidéos où ils font leur numéro de blague, qui est objectivement, ils auraient cartonné au Saturday Night Live, mais c'est vraiment le départ de ces deux personnes qui a amené vraiment un autre esprit dans l'équipe de développement du navigateur web.
Je saurais pas te dire si c'est ces deux-là particulièrement. Je sais qu'à l'époque de tout ça, il y avait Steven Sinofsky qui était à la tête de Windows, qui avait une vision extrêmement... Il venait de Office, qu'il avait réussi à bien redresser. Et il drivait Windows un peu de la même manière. Mais j'étais pas dans les sphères qui ont décidé ce qui s'est passé. Mon ressenti, et ça ne vaut que comme un ressenti, c'est qu'effectivement, je crois que l'échec de Windows 8, le départ de Sinofsky... a insufflé un sang neuf aussi. Tu sais, il part forcément avec les gens qui étaient avec lui. Et donc, de nouvelles personnes arrivent, du Saint-Neuf arrive. Et puis, il y a un débat à un moment donné. On se dit, punaise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait IE12 et on s'en sort pas, tu vois? Ou est-ce qu'il faut essayer de remettre un nouveau moteur en place, quoi? Et c'est à ce moment-là. Je pensais au départ de Sinofsky, moi, je le vois vraiment.
Ouais. Alors, c'est marrant que tu parles justement de la suite Office, parce que moi, ce qui m'a scié, c'était l'adaptation en parallèle de la suite Microsoft Office en solution SaaS.
Ouais.
Alors, je savais que il y avait Edge qui se préparait sur un changement de moteur, il y avait des outils qui étaient compilés en interne pour essayer de se découpler du système d'exploitation. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, que l'on puisse faire tourner des outils de bureautique de Microsoft sans souci sur Firefox dans Linux, il n'y avait pas aussi une preuve qu'il y avait un ras-le-bol de l'équipe développement d'outils web vis-à-vis d'Internet Explorer et qu'eux aussi voulaient sortir du purement écosystème Microsoft?
Ah mais tout le monde voulait. Mmh. Tout le monde voulait. Et puis surtout les chiffres. Tu sais ce qui fait décider à ce niveau? C'est les chiffres. Tu regardes les chiffres et tu te dis, attendez, pourquoi est-ce qu'on s'assoit sur les ventes de Office sur toutes ces plateformes où on ne va pas, même macOS, c'était un retard d'une version à chaque fois. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là, on leur donne pas ce qu'ils veulent et eux, ils nous donneront leur argent, tu vois? Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête juste pour un problème presque psychologique, limite religieux, de se dire non, Windows est la vache à lait de Microsoft? Et effectivement, tu l'as dit ça, pour le coup, le départ de Bill Gates et de Ballmer, puis de Sinofsky, et j'y tiens parce que je pense que lui aussi y portait cet état d'esprit, a mis un coup de pied dans cette fourmilière en disant non, Windows n'est plus la seule ressource importante de Microsoft. Ça l'a été très longtemps, mais tu vois aujourd'hui nos chiffres Azure, Office sont en compétition large en termes de revenus avec ce que fait Windows, tu vois. Et eux, ils sont plutôt sur la pente montante, même si Windows avec la pandémie a repris du poids de la bête. Mais si tu fais un trend, tu vois bien qu'Office et Azure sont certainement plus positifs que ne l'est Windows aujourd'hui. Donc, ça a été un plutôt bon choix.
Alors, faire un navigateur web, c'est pour certains, dont Microsoft, une porte d'entrée pour pousser ses outils. Notamment, à l'automne dernier, Microsoft propose dans Edge le crédit consommateur, l'achat en plusieurs fois sans frais. Sauf que, dans le communiqué officiel sur techcommunity.microsoft.com, j'ai été scotché par les tags mis dessus, et je cite, et je déconne même pas. En tag, il y a antisocial, bad ideas, mauvaise idée, brought, c'est énorme, DAC pattern, mauvaise idée, embarrassment, exploitative, horrible IE6, poor leadership, mauvais management, predatory business model. Là, j'ai eu quelque chose, parce que c'était quand même sur un site officiel de Microsoft, sur le communiqué officiel de Microsoft. Est-ce que la parole est nettement plus libre au sein de Microsoft que l'époque de Bill Gates, Steve Ballmer, etc.?
Oui.
Est-ce que je me trompe et le community manager va se retrouver bûcheronné dans une forêt de l'État de Washington?
Non, je pense que c'est plus libre. Après, je sais pas qui met ces tags. Est-ce que c'est pas les utilisateurs plutôt que les... Je crois que ça vient des utilisateurs. Hein. Je crois pas que ça vienne de chez nous. Je m'exprimerai pas sur l'idée que derrière le crédit, puisque je suis un employé de Microsoft et donc je suis tenu une certaine droit de réserve.
Oui, ça, je comprends.
Je pense pas que ça soit les employés de Microsoft qui ont mis ces tags. C'est ça que je veux te dire.
D'accord.
Peut-être qu'ils auraient eu envie de le faire, mais je pense pas que ça soit eux qui l'aient fait.
Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est plus facile en interne de faire remonter des choses, de dire, c'est peut-être pas une bonne manière de faire? Est-ce que justement, il y a une évolution sur l'éthique?
Il y a une grande évolution sur l'éthique. Une grande évolution. Satya, c'est lui, il n'y a pas photo, a mis en place une culture qui est complètement différente. Une culture qui est plus ouverte, plus inclusive, plus à l'écoute. Tu peux vraiment ne pas être d'accord avec certains choix. Certains employés chez Microsoft n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on travaille avec les départements de la défense, par exemple, sur HoloLens. C'est une chose que tu peux dire et tu risques pas ton boulot, quoi. T'as le droit de dire, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mmh.
Voilà. Tu veux dire par là que, actuellement, et pas uniquement à cause du confinement, ça sent moins le vestiaire dans les open space de Microsoft?
Oh, aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, et non, mais vraiment. Et puis, tu vois, par exemple, quand moi, j'ouvre un poste pour recruter, il m'est obligé d'avoir 50% de candidats qui sont pas des blancs de 40 ans, en gros. Tu vois.
Et merde.
Donc, je suis obligé d'essayer de, et ouais, c'est con pour nous, mais c'est très bien pour tout le monde. Tu vois, dans mes équipes, j'ai plein de femmes.
Oui.
On est scruté par la RH qui me disent pourquoi, tu vois, ils vont te demander, est-ce qu'on fait une courbe? Est-ce que les femmes sont aussi promues que les hommes? Tu vois. On fait attention à tout ça. Mm. On fait attention à tous nos biais, qui sont issus, d'une masculinité toxique, ce genre de choses. Ouais, non, ça, Satya, sur ça, il a vraiment foutu un gros pied. Et je sais que nous, on n'aura pas d'affaires, ou pas de grosses affaires, en rapport à ça, parce que je le vois tous les jours. Il y a une vraie recherche de l'égalité, que ce soit sur, entre les sexes ou entre les races, entre les religions, entre les genres, entre tout quoi. Entre les genres, entre tout quoi.
Et qu'est-ce que cela amène au sein de l'équipe informatique? Est-ce que ça discute mieux? Est-ce que du coup, il y a d'autres problématiques dont on discute qui n'auraient pas été forcément discutées? Par exemple, sur l'accessibilité, sur l'internationalisation, sur la manière de faire du wording?
L'accessibilité, mon gars, je peux pas sortir un produit si je ne suis pas au moins gold sur les accessibilités standards. C'est pas compliqué. J'ai pas le droit. Voilà. C'est même pas que je peux pas. Si je voulais, je pourrais pas. Non, aujourd'hui, moi, j'ai des gens de mon équipe dans leur métier. C'est ce qu'on appelle les accessibility champs. Ce sont des gens qui sont là pour être sûr que c'est bon. Que tu sois sourd ou malvoyant, etc., etc., tu vas pouvoir utiliser nos produits. On y passe et on investit un temps fou. Il faut savoir que ça aussi, ça vient de Satya. Satya a vraiment bougé les lignes sur ça. En disant, attendez, on sort pas un produit pour quatre personnes, on le sort pour tout le monde. Tout le monde, quelle que soit la vie que tu as.
C'est CPU avec David Catur, responsable de groupe de développement chez Microsoft, et on parle de la transition d'Internet Explorer vers Edge, ou plus exactement de Edge qui part de l'ancien moteur de rendu d'Internet Explorer vers Chromium et consorts. Et d'ailleurs, justement, abandonner l'idée de faire un moteur de navigation web maison. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était trop complexe, ça prenait trop de temps. Revenir de zéro, pour quoi faire ?
Ah ah, c'est la question. Alors là, j'étais en plein dedans. Il y a eu deux Edge. Le premier Edge était basé sur le même moteur HTML que celui de IE. D'accord ? Donc, le premier Edge qu'on a sorti, c'était en fait une évolution du moteur de IE dans lequel on se permettait de casser un peu la compatibilité. Ce qui nous bloquait, pour tout te dire, c'est que si on voulait être... compatible avec les standards du web, il fallait que l'on enlève les quirks et tout ce qu'on avait dû mettre dans Internet Explorer. Ce qui fait qu'un site qui avant marchait sur Internet Explorer ne marchait plus sous Edge, puisque Edge suivait les standards du web, tu comprends? Et ça a été notre boulet depuis IE6. Faire en sorte que les sites qui marchaient sous IE6 ben, marchent sous les standards du web, tels qu'ils étaient, avec le même navigateur. C'était insupportable à gérer. On avait des listes d'exclusion, des whitelists, des blacklists, c'était compliqué. Du coup, quand Edge arrive, on n'y va pas complètement quand même. On se dit, c'est impossible, avec le business que ça génère aujourd'hui, tu vois, tu citais l'exemple de la Corée du Sud, mais on en a plein d'autres comme ça, où des gens vont espérer que le navigateur par défaut du prochain Windows continue à faire fonctionner leur site, où tu as un peu d'ActiveX, un peu de toutes les fonctionnalités qui n'existaient que sous IE, tu vois, qu'on avait fait passer plus ou moins au forceps. Et ça a donné un demi-produit. Honnêtement, Edge était un demi-produit parce qu'il n'avait pas fait ses choix. En interne, les gens n'étaient pas prêts à dire « on va faire une croix, tant pis ». Les sites qui marchent sous IE, bah, ils marcheront plus sous le nouveau Edge. Ça, on n'était pas prêts à le faire. On n'était pas prêts parce que c'était des gros chiffres, parce que c'était des clients qui avaient confiance en nous, parce que on n'avait pas de solution technique à leur proposer. Et presque quelque part, il valait mieux que ces sites-là continuent à fonctionner sous IE, et puis tant pis si les gens basculent sur Chrome. En termes de revenus, c'était pas la même limonade, tu vois. Ceci étant dit, le web continue à grandir, les développeurs en interne continuent à pousser en disant « putain, mais développer les gars sous Edge, c'est un peu comme sous IE, quoi. C'est super pénible, il y a plein de trucs qui marchent pas, on est toujours en retard sur les standards, c'est un investissement de plus en plus lourd, puisqu'il faut à la fois maintenir le moteur d'origine plus le nouveau, enfin, c'était insupportable. » Jusqu'à arriver à un point de tension, un changement aussi dans les gens, et puis on s'est dit « allez, c'est bon, bastouille, et je te raconte pas, j'étais dans les discussions à tous les niveaux là de... quand on se demandait faut-il y aller, faut-il pas y aller, quel moteur faut-il prendre, est-ce qu'on redéveloppe le nôtre mais from scratch, est-ce qu'on se base sur un moteur open source et lequel, tu vois.
Oui.
Bon, au final, effectivement, le nouveau Edge, c'est Chromium. Moi, j'en suis ravi. Ça fait que j'ai plus jamais lancé Chrome depuis qu'on est passé sur le nouveau Edge. Et du coup, je suis plus satisfait sur ma vie privée.
Et pourquoi...
Hop, petit tacle.
Et pourquoi avoir choisi Blink, le moteur de Chrome et Safari, plutôt que Servo Quantum de Firefox?
C'est une vraie question, ça.
Oui, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est une vraie question, bordel.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et je me suis posé la même. J'étais pas impliqué dans ces décisions-là. J'ai été impliqué à un moment donné quand il s'agissait de choisir si on y allait ou pas. Mais c'était où on reste avec ce qu'on a, où on va avec Chromium. C'était pas où on y va avec Servo. Tu vois, ça, je saurais pas. Je sais pas pourquoi.
D'accord.
On est relativement proche de Firefox, par exemple. Firefox Reality, c'est le browser qui est utilisé dans HoloLens, tu vois. On bosse super bien avec Mozilla, etc. Donc, je sais pas du tout pourquoi.
C'est lunettes de réalité augmentée,
ouais,
voilà.
Exactement, ouais. Tout à fait. Et il y a un navigateur à l'interne qui est Firefox Reality.
Ah ouais. Finalement, vous avez pas choisi Chrome là-dessus, enfin Chromium pour ça.
C'est une grande boîte. Des fois, tu ne peux pas t'attendre avec 120 000 employés à ce que tout soit logique. Là, c'est quelque chose que tu apprends. Ok, bon, ça, c'est pas logique parce qu'ils se sont pas parlé entre eux. Bon, ok, d'accord. On fera mieux la prochaine fois.
D'accord. Donc, des fois, c'est pas logique. Et puisque justement on parle d'une grande boîte, 2022, la date officielle de mort d'Internet Explorer, c'est pour les mises à jour de sécurité, c'est terminé et maintenant c'est basta. Mais ça veut dire que là, jusqu'à récemment, combien il y avait de développeurs qui étaient dessus sur, sur la gestion des corrections ? Ça là-dessus, il n'y a pas de chiffre.
Je ne sais pas te dire.
Ouais. Vous avez quoi ?
Bah, peut-être, mais moi je ne les connais pas pour le coup. Ça, je ne sais pas. Ça ne doit pas bien être épais, ceci dit.
Est-ce que le nombre de développeurs, du coup, sur Edge. Du coup, puisque vous êtes passé sur Chromium, l'équipe a été réduite ou elle est restée constante ?
Elle est restée constante parce qu'en fait, mine de rien, on prend Chromium et on enlève tout ce qui est Google dedans.
Ouais.
Et on met notre sauce à nous. Tu as parlé tout à l'heure même de mauvaises idées, mais dans tous les cas, on le remet à notre sauce. Et puis surtout, on doit l'adapter à nos écosystèmes. Et puis, on fait quand même des nouveautés, mine de rien. On ne fait pas juste que sucer la moelle du truc, tu vois. On essaye aussi de contribuer. Enfin, on contribue d'ailleurs à Chromium. Il y a des choses dans Chromium aujourd'hui que vous avez dans Google qui viennent de chez nous. Donc là, si tu veux, le focus de la team, ça a plus été de poursuivre, toujours essayer de faire pareil, mais au contraire de contribuer. Enfin, franchement, on utilise mieux nos ressources aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu es un utilisateur de Edge, puisqu'il existe sur Linux. Tu dois
oui, tout à fait. Mais je l'ai sur ma backup pour tester, pour faire des tests.
Voilà, tout à fait. Oui, toi, t'es plus sur Firefox, ça ne m'étonne pas.
ça se voit.
mais tu vois, tout ça, en fait, c'est des choses que l'on... on a gardé l'équipe à peu près au même niveau.
Mmh. Et actuellement, est-ce que tu as une idée du nombre de développeurs employés, salariés par Microsoft sur le navigateur web ?
Non, je ne saurais même pas te donner un ordre d'idée.
Mmh. C'est fou.
Je ne sais même pas si c'est une information qui est publiable, je ne sais pas te dire.
D'accord. Est-ce que par contre, le fait d'être passé à un moteur open source, ça vous a fait changer de méthode de travail sur le logiciel de gestion de version, sur la manière d'ouvrir les tickets et tout ça, et de discuter avec les autres équipes de boîtes concurrentes ?
Nous, on a deux approches. On a GitHub et on a Azure DevOps.
Ouais.
Donc, on avait... Là, si tu veux, il y a une partie qui est sous GitHub de Chromium, si tu veux. Mais on était déjà habitués à bosser sur les deux mondes. Hein, donc, je pense pas que ça ait changé. Ce qui a beaucoup changé, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de PM maintenant qui sont responsables du travail avec Chrome, avec Apple et avec Mozilla pour justement avoir des standards. Chose qui était présente avant, mais qui a atteint un niveau aujourd'hui. Tu vois, par exemple, je te reparlais de WebGPU tout à l'heure. On est à cette table. Microsoft est à la table de WebGPU. On fait partie de la spec.
Alors, faut expliquer rapidement ce que c'est que l'API WebGPU. C'est passer une partie du code du CPU, en fait, à la carte graphique.
C'est pour ceux qui connaissent DirectX ou Metal ou OpenGL ou Vulkan, c'est l'implémentation de ces API dans le monde du web. C'est un peu WebGL 3 en quelque sorte. C'est vraiment pour faire de la 3D sur le navigateur. Et c'est une partie que je connais bien parce que je fais partie de ces groupes de discussion. Mais Microsoft est là. On est là. On est là à côté d'Apple. On est là à côté de... C'est vraiment notre investissement aujourd'hui, c'est d'être là sur tous ces standards, OW3C comme au Chronos Group.
L'une des grandes difficultés de IE, c'était son énorme couplage avec le code de Windows. Il y avait énormément de choses, si je me trompe.
Mmh. Oui.
Puisque je crois que la gestion des images était déléguée, en fait,
plein de choses.
À lib de Microsoft et tout ça, ce qui ouvrait des portes de magnifiques au moindre trou de sécurité.
Oui, et puis quand tu parles de spec, va faire respecter les specs quand ton engine, c'est celle du système, tu peux pas la changer, tu vois. Si jamais la manière quand on donne tes codes, je sais pas moi, un PNG, qu'on traite la transparence change au niveau des specs, mais toi, tu vas pas aller voir dans Windows pour le changer, tu vois. C'était l'horreur. Tout ça, c'était facile pour l'écrire, du coup, mais c'était l'horreur pour suivre les standards. Parce que, justement, on avait un tel lien avec l'OS qu'on était bloqué.
Quelle est la plus grosse difficulté à chaque mise à jour de Blink pour l'équipe de Microsoft ? Qu'est-ce que vous supprimez, en fait, en SWAT ?
Tout ce qui est Google. Tout ce qui va être le tracing que fait Google dedans. Tous les outils que Google met pour sniffer ta life, quoi.
Qu'est-ce que Microsoft a amené, justement, récemment dans le moteur de Blink, comme code, comme avancée majeure ?
Je ne saurais pas te dire. mais je te promets qu'on le fait, c'est sûr. Si vous regardez, on le fait, on en fait plein.
Et quand vous prenez,
mais je sais pas quoi.
Et quand vous prenez une fonction, vous travaillez comment avec les autres équipes ? Ou c'est vous le faites d'abord de votre côté, ou vous passez de temps à autre un coup de fil à l'équipe de Chrome ? Vous faites sous Microsoft Teams un barbecue pour en discuter, ce genre de truc ?
On a des points réguliers une fois par semaine avec l'équipe de Chromium. on discute de tout ça. Tu vois, par exemple, je te parlais de ma croisade là, d'essayer d'avoir du threading dans JavaScript. Bah, ça, c'est des points qu'on évoque avec eux, tu vois. Mmh. Puisqu'on n'arrive pas à le faire passer au niveau de l'aspect du langage, est-ce que ça peut pas être une API dans le browser? Tu vois, c'est des choses qu'on discute ensemble. Et on a des embryons de spec qu'on démarre ensemble. Non, c'est super. On s'entend très bien, hein, vraiment. Hein. Entre ingénieurs, on s'entend très bien. Mmh.
Ça, c'est un indiscret que j'ai eu par un copain d'une autre boîte qui me disait « Ceux avec qui on a le plus de mal à parler de navigateur, c'est avec les mecs de chez Apple. »
Ah oui, je ne peux pas trop en parler, mais...
Qu'on m'avait dit voilà. Que quand les mecs d'Apple passaient chez Mozilla, par exemple, il fallait couper les webcams et tout ça.
C'est pas facile de travailler avec Apple.
C'est le blocage permanent, il faut anonymiser, il faut passer par ProtonMail...
Hélas, je peux pas trop t'en dire, mais encore une fois, il suffit de regarder la spec WebGPU, pour te donner un exemple. Mm-hmm. C'est une spec, ils sont arrivés, c'est eux qui l'ont lancé, ils voulaient appeler ça WebMetal, ça a évolué vers WebGPU, tout le monde s'est mis autour de la table, ils ont rien dit, et à la fin, ils ont dit non, mais on veut pas ça. Et ils ont changé le langage de shader de leur simple fait. Voilà. Soit c'est comme ça, soit on n'implémentera pas la spec, en gros, tu vois. Et c'est insupportable.
Attends, tu veux dire que c'est eux qui l'ont instancié et après ils ont foutu le...
On les a plus vus pendant très longtemps. L'aspect a évolué entre Microsoft, Mozilla et Google. Et puis à un moment donné, il a bien fallu qu'on s'assoie autour de la table parce que Mozilla, Google et Microsoft en voulaient un langage spécifique pour les shaders. Eux, ils en voulaient un autre. Mais comme ils ont une force de frappe qui est de dire, ben sinon c'est pas implémenté dans iOS, ben t'es obligé d'un peu d'écouter quoi.
Ouais. Voilà. Ouais. C'est problématique. Donc, c'est vraiment casus belli et tout
Non, on essaie de bien travailler avec eux. Et encore au niveau des ingénieurs, tu vois, c'est des gens bien. Mais effectivement, il y a un état d'esprit que... Non, je suis pas fan, moi, je dirais.
D'accord.
Mais encore une fois, c'est pas Microsoft qui parle, c'est David Catu. Et je mets bien tout ça entre guillemets, quoi. C'est ma vision du monde. Quoi. Ouais.
Et ceci est approuvé par nos services juridiques respectifs. Le fait d'avoir un navigateur qui se base sur le même moteur que les autres, est-ce que c'est plus facile, par exemple, pour recruter d'autres personnes?
Oui, bien sûr.
En tant que dev, là-dessus?
Ah ouais, ah ouais, t'as un socle commun. En plus, il est open source. Avant, c'était pas open source, quoi. Donc,
j'ai parlé de Tandcheck dans l'émission précédente, donc qui était sur IE sur Mac et qui maintenant bosse chez Mozilla. Il y a eu une certaine perméabilité entre les différentes entreprises qui produisent des navigateurs web. Ça discute bien, justement, de ce côté-là. C'est plus facile de faire passer quelqu'un, par exemple, de chez Google ou de chez Brave à chez vous.
J'imagine. Alors moi, je suis pas dans les équipes Edge, encore une fois, donc je suis à côté. Je suis dans les équipes Office, grand utilisateur et bien connecté avec eux, mais je me dis que vu que déjà, c'est des projets open source, ça va être bien plus facile de recruter. Moi, je le vois tous les jours, quoi. Mais je saurais pas te donner une réponse précise.
D'accord. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est juste qu'effectivement, c'est un très gros boulot.
Pas, quoi.
Et le navigateur est la pièce la plus complexe de code à part le moteur de rendu PDF, et je sais là-dessus à peu près de quoi je parle, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec David Catu, responsable de groupe de développement chez Microsoft, pour parler de leur navigateur maison, Edge, Kiwi et moderne. Et pour dire que c'est moderne, c'est qu'il y a plusieurs chantiers qui sont à faire. Pour toi, d'ailleurs, quels sont les prochains chantiers que tu vois effectuer dans le navigateur web?
Ah ben... Je te parle de ma croisade depuis le début. J'espère que les gens ont retenu que moi, je voudrais bien les threading en JavaScript quand même. Bordel.
Mais accessoirement, qu'est-ce que tu y verrais?
Au-delà de cette histoire de threading, une chose qui m'importe beaucoup, c'est l'accessibilité en 3D. On a un vrai gros souci quand on fait du rendu dans le canvas et que je fais de la 3D. Eh bien, je me retrouve pour un malvoyant avec un carré noir, quoi. Du coup, les systèmes de lecture... Ne voit rien, quoi, tu vois. Donc, on est en train de pousser pour avoir une sorte de virtual DOM à ce moment-là, ou alors un accès carrément au système d'assistance, où on pourrait donc envoyer un event en disant, OK, ben là, il y a un cube à l'écran qui tourne, ça, c'est la tête d'un singe, à cet endroit-là, il y a un temple en 3D, etc. Une manière pour nous de piloter de manière descriptive ce qui se passerait en 3D. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ça. On n'a pas une API, si tu veux, pour piloter les readers. Ce qu'on essaye de faire, parfois, c'est de générer des documents dans le DOM, des objets pour que le reader aille voir, mais c'est vraiment pas bon. Mmh. Donc ça, c'est un des efforts qu'on est en train de faire, qu'on aimerait bien voir arriver surtout, pour être honnête avec toi.
Tu parles d'accessibilité, mais l'un des manques rétrospectivement qui m'étonne toujours, c'est que en accessibilité, on peut pas faire d'accessibilité sur les événements.
Tout à fait. C'est exactement ça. Les readers, ils vont rester sur le DOM et tu peux pas vraiment les piloter, tu vois. Alors ça marche pour nous en 3D, mais ça marche pour plein d'autres exemples. Tu as raison. Les events aussi.
Qu'est-ce que tu vois d'autre, justement, comme un, comme truc que tu aimerais pousser?
Ah, ouais, ben, c'est mes deux marottes, c'est vraiment ces deux-là. C'est avoir, aujourd'hui, je pense que le web, a tout ce qu'il faut pour réussir à être en compétition avec des clients natifs. Les PWA, j'adore ça. J'ai fait plusieurs apps, notamment une de gestion de cartes Magic qui est un PWA. Elle est présente sur le store d'iOS.
Alors, on explique que PWA, c'est faire une application autonome qui, en fait, lance un navigateur très léger et qui donc peut vivre sur son téléphone ou son ordinateur et qui est vraiment multiplateforme. Exactement ce qui fait chez Apple.
Et qui est vu comme une app. Et qui est vu comme une app.
Et exactement ce qui fait chez Apple, c'est pour ça que ça ne marche pas sur iOS.
Ah, ça, ils sont pas très contents. Alors, sur iOS, j'ai fait une WebView, j'ai fait une petite app native avec une WebView et du coup, t'arrives à t'en sortir. Et moi, je voudrais que ça continue à aller vers ça. Et du coup, il faudrait qu'on close the gap, que qu'on réduise la distance entre ce que peuvent faire les apps natives et ce que peuvent faire les apps web. Tu vois, c'est rigolo, mais moi, j'ai bien aimé le Web MIDI, j'aime bien le Web USB, le Web Bluetooth, tout ce qui permet à notre système web, d'une manière sécurisée, bien sûr, d'être en compétition avec une vraie app. Aujourd'hui, on a plein d'exemples dans Windows. Justement, tiens, j'ai un exemple de ce que nous, on pousse vers Chromium. Tiens, là, j'en ai un qui arrive. Par exemple, le fait qu'une app, qui est un PWA, donc c'est un site web qui a été embedded et qui est vu comme une app, puisse ouvrir des extensions. Genre, c'est un fichier .toto sur ton système d'exploitation. Quand tu double-cliques dessus, eh bien, t'aimerais que, non pas une app native, mais une app PWA, donc une app web, puisse être le fournisseur et puisse le consommer, tu vois. Donc ça, ça marche sous Windows aujourd'hui. On l'a poussé dans Chromium et on est en train de mettre en place le standard. D'ailleurs, il doit être sous Origin Trial au moment où on parle. Donc du coup, tu vas voir dans le futur ben, que tu vas pouvoir ouvrir des apps web, écrites en web, qui sont donc poly cross-platform, qui vont pouvoir faire plus de choses au niveau de l'OS, comme par exemple ouvrir une extension.
Alors, on parlait tout à l'heure du fait que ben on a enterré un moteur de rendu, que Firefox ben pour l'instant ça, cerveau quantum et tout ça, mais ça devient de malheureusement d'un usage général de plus en plus réduit. Est-ce qu'avoir un seul moteur de rendu pour le web est souhaitable?
Grande question. Si c'est un moteur de rendu open source, je suis moins stressé. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai vécu l'époque des trois moteurs de rendu, c'était insupportable. En tant que développeur, personne implémente correctement la spec. Il y a une spec de facto, c'est celui qui a le plus d'utilisateurs. Voilà. Bon, j'ai pas aimé ça. Honnêtement, peut-être que ça va aller à l'encontre de ce que pensent les gens, mais moi, j'aime bien l'idée d'avoir un seul moteur de rendu du moment qu'il est open source. Comme ça, on a vraiment une spec qui est faite par les faits. C'est ce que les faits donnent l'aspect, hein. Ce qui marche, c'est ce qui est dans le moteur. Ce moteur est open source. Il n'est pas sous le contrôle d'une seule entité, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, hélas. Mais avoir un moteur de rendu open source géré par le W3C, mais moi, je signe tout de suite.
On a parlé tout à l'heure de Babylon.js très rapidement pendant ces deux émissions, qui est une bibliothèque JavaScript qui reste absolument stupéfiante. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est et sous quelle licence?
Alors, c'est une licence Apache 2. J'ai choisi ça à l'époque, en 2011.
Ah bon, c'est pas une licence IIS 2?
Du coup, on n'a pas... Non, c'est une Apache 2.
D'accord. Non, voilà. IIS...
Je crois.
Le système de serveur web.
Ah oui, d'accord. Okay. Je viens d'avoir la job.
Ah, excuse-moi, mais oui, elle est nulle. Je suis désolé.
Je t'ai connu meilleur. Donc c'est une Apache 2, effectivement. C'est un projet que j'ai créé dans mon garage avant même de rejoindre Microsoft en 2011. Moi, je fais des moteurs 3D depuis que je suis presque tout petit. J'ai commencé, j'avais 15 ou 16 ans. J'ai fait deux sociétés qui faisaient de la 3D avant de rejoindre Microsoft. Et j'aimais faire ça. Et il s'est avéré que sur le marché à l'époque où j'ai commencé, il y avait vraiment un seul moteur 3D, Tree.js, qui est fait par un gars qui s'appelle Ricardo Caballo, un espagnol, Mr. Doob, un excellent moteur 3D, mais pour lequel je trouvais des choses qui ne m'allaient pas. Par exemple, moi, ce que je suis très attentif à la backward compatibility. Je veux pas que quand une nouvelle version sorte, tous les gens qui se servent du moteur aient à tout recoder. Et ça, avec Tree.js, c'était vraiment un sujet qui ne m'allait pas. Ils avaient également une approche de sa communauté qui était intéressante, mais qui n'était pas la mienne. Moi, j'aime bien avoir une communauté centralisée autour d'un forum, un esprit famille. J'ai un esprit très paternaliste. Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va essayer. Mais c'est vraiment sur le côté, quoi. Et puis, je deviens évangéliste IE. Et la seule manière pour moi de me faire inviter à une conférence web, c'était pas de parler de IE, parce que forcément, tout le monde s'en battait les steaks de IE, quoi. Mais par contre, quand je leur parlais de mon petit moteur 3D, qui, en l'occurrence, marchait sur IE, ben, déjà, c'était un peu mon cheval de Troie, en quelque sorte. On venait, on parlait du moteur 3D, et en profiter pour glisser une petite pilule sur, les gars, bon, il y a plusieurs browsers, il n'y a pas que Chrome, quoi. Donc, si vous pouviez aussi tester sur Firefox et IE, ça dérangerait personne. Bisous. Voilà, le moteur monte, la communauté augmente. En 2013, je suis pingé par une équipe de Redmond. Je suis déjà chez Microsoft, mais qui me ping en disant, oui, on vient de découvrir que le moteur que l'on utilise pour un de nos produits est en fait développé par un développeur de chez Microsoft sur son temps libre. Ouais, c'est moi. Le projet en question, c'était SharePoint Spaces. L'idée d'avoir, c'était très en avance, le métaverse dans SharePoint, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ça s'appelait pas métaverse, mais ça revenait au même. C'est d'avoir des salles de réunion virtuelles. Et ils utilisaient Babylon. OK. Puis un second projet qui naît un peu plus tard d'un groupe qui s'appelle Everyday Magic. L'objectif, c'était d'avoir une place de marché où tu pouvais acheter et vendre des objets 3D, qui aujourd'hui se retrouvent dans Office. Si dans Office, tu vas dans PowerPoint et que tu peux injecter des objets 3D, et là, tu verras, t'as une bibliothèque de plein d'objets 3D, ça vient de cet effort-là. Et à cette époque-là, cette équipe me ping et me dit, bon, allez, nous aussi, on utilise Babylon. Je pense qu'il est devenu sérieux d'avoir une équipe en interne chez Microsoft pour au moins maintenir le projet qui reste à flot, parce que si t'as envie de faire autre chose et que t'arrêtes, ben, on est un peu le bec dans l'eau. C'était la reconnaissance de quelque chose qu'aujourd'hui l'industrie n'a pas totalement reconnu, c'est que beaucoup de nos produits s'appuient sur des projets open source qui sont maintenus par la bonne volonté d'un ou deux personnes, tu vois. Bon, là, ils se disent, non, on va essayer quand même de te soutenir. Est-ce que ça te dirait d'être payé pour faire ce que tu fais gratuitement aujourd'hui? OK, pas de problème. Donc, on monte une équipe. Je suis un au début, puis deux rapidement avec mon ami Sébastien Vanderberg qui rejoint l'équipe. Et puis aujourd'hui, on est 12. Tu vois, c'est une équipe qui a bien grossi. PowerPoint sur le web tourne entièrement sur Babylon.js, SharePoint Spaces, Bing Map 3D. Dans Teams, quand vous faites des réactions, vous faites des claps, etc., les petites animations, c'est nous. Le background de Blur dans Teams sur le web, c'est aussi nous. On est un peu partout, tu vois. On a mis le GPU à disposition de tous les ingénieurs web chez Microsoft. Donc, c'est une belle aventure. J'appelle ça mon American Dream, parce que littéralement, c'était un projet que j'ai commencé dans mon garage, pour lequel aujourd'hui, je suis plutôt bien payé pour le maintenir. Avec un projet qui est toujours en Apache 2, toujours open source, pas sous le contrôle de Microsoft. Donc, c'est vraiment une belle histoire.
Et il n'y a pas qu'une bibliothèque de rendu, il y a des outils à côté qui sont assez formidables.
Oui.
Donc, il faut peut-être les présenter, justement.
On a plusieurs outils. Alors, on a plusieurs outils. Le premier, le plus bas niveau, s'appelle Spector, qui est un débugger de WebGL. Alors ça, c'est vraiment, il y a peut-être 10 personnes dans le monde qui ont envie de s'en servir, mais quand tu écris en moteur 3D, c'est super important, parce que ça t'analyse les traces, etc. On a d'autres objets un peu plus utilisables, certainement. On a le Playground, qui te permet d'écrire un JavaScript ou un TypeScript du code Babylon, et immédiatement, t'as le rendu 3D sur le côté. Pense à CodePen, par exemple, ou JS Fiddle. C'est typiquement ça, mais pour Babylon. On a également la Sandbox, qui te permet sur une page web, de glisser des n'importe quel objet 3D pour les voir, tu vois, c'est un viewer sur le web. On a également Node Material Editor, qui est un outil qui te permet de faire des shaders sans connaître le langage shader, mais en utilisant des petites boîtes et en connectant entre elles. Pour les fans d'objets 3D, genre 3ds Max ou Maya, ils reconnaîtront, c'est ce qu'on appelle un shader graph. On a une doc aussi qui est dynamique, puisque dans la doc, on a des exemples en 3D, c'est la force du web, t'as ta doc et puis t'as des exemples en 3D. Et surtout, à mon avis, notre outil préféré, c'est le forum de Babylon.js, forum.babylon.js.com. C'est vraiment quelque chose que, depuis le début, j'avais envie d'avoir. C'est une communauté de gens positifs. Je te cache pas que de temps en temps, il y a le banhammer qui tombe, parce qu'on a toujours des débiles qui passent par là. Mais on a vraiment essayé d'avoir une communauté où il n'y a pas de questions stupides, tu vois. Tu peux venir poser vraiment la random question, genre, c'est quoi un point en 3D? Tu vas trouver quelqu'un qui va venir te répondre. Moi, j'ai vraiment essayé d'instiller ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la principale force de Babylon, c'est pas tant son moteur, mais c'est plus sa communauté.
C'est très beau, et ça lève bien justement la puissance de l'open source, justement, et de la contribution volontaire, et comme quoi on peut contribuer justement à l'open source autrement que par le code. Pour terminer, il y a une tradition qui a existé. À l'origine, c'est une vacherie entre les équipes de Microsoft et de Netscape. Donc, je voudrais savoir si entre les équipes de Microsoft et de Firefox, parce qu'après, la tradition s'est énormément adoucie et même devenue super mignonne, c'est celle des gâteaux à chaque release majeure, quand, à l'époque, on sortait une version majeure d'un navigateur qu'à peu près tous les ans ou tous les 6 mois.
Ouais.
Et est-ce que cette tradition existe toujours ?
Je sais pas. J'en entends plus parler non plus. Mais même pour Firefox, je sais pas s'ils envoient toujours des cakes entre eux. Je sais pas te dire.
Et le plus drôle, quand même, c'est que au bout d'un moment, ils ont commencé à publier en open source les recettes, chacun entre eux, et j'ai trouvé ça avec des poèmes et tout, c'était super joli, quoi.
On a une excellente relation entre développeurs, honnêtement. Hein. Moi, je fais plein de meetings avec les gars de Chromium ou les gars de Gecko. C'est super positif. Hein. Il y a pas, y a, je sens pas d'animosité, jamais. Pas à notre niveau, en tout cas. Après, au niveau au-dessus, après, quand il y a des sous qui rentrent, bien sûr, j'imagine que ça doit être un peu plus tendu, forcément. Mais entre les développeurs, c'est top, hein, vraiment. Tu vois, dès que j'ai un bug aujourd'hui dans WebGL, je sais pinguer les développeurs chez WebKit. Non, pardon, sur Blink. Ah non, pardon, sur Dawn. Le nouveau s'appelle Dawn. Le nouveau moteur s'appelle Dawn. Il y a d'ailleurs un Français peut-être qui nous écoutera, Corentin, coucou si tu nous écoutes, qui est développeur chez Google. C'est des perles, ces gens-là. Ils sont tous gentils, hein, vraiment. La plupart des gens sont là-dedans pour faire un super moteur. Il y en a pas un qui va avoir un mauvais état d'esprit. Vraiment. Mm. Il faut le souligner. Il y a des gens bien qui sont derrière nos moteurs de rendering.
Et même entre cool. moteurs de rendu complètement différents.
Complètement.
David Catu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps là-dessus. Je te remercie amplement et c'est avec un immense plaisir que j'espère bien que l'on se revoit un de ces quatre. Et je me souviendrai toujours de la fois où sur Paris Web, en 4 minutes et demie, en tout en parlant, tu as codé l'univers, tu as rejoué la genèse. C'était à hurler de rire et c'était extrêmement impressionnant. On mettra évidemment sur la page web de l'émission le lien vers la dite conférence, et ça montre que ben oui, il y a un esprit positif derrière. On peut parler des méchants GAFAM et tout ça, mais quand même dans le navigateur web, il y a une certaine éthique derrière et que ça dialogue ouvertement là-dessus. Et c'est impressionnant quand on a connu l'ancien Microsoft. Merci beaucoup.
C'était fut un plaisir et effectivement ça me manque, c'est Lightning Talk. J'adorais faire ça. C'était super cool.